7e édition du Gala des Silidors de la musique du monde, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 1er mai au cabaret du Myland à partir de 20h30, venez nombreux voter pour vos artistes coup de cœur, ceux qui seront consacrés Silidors d'argent et de bronze. Prenez part au Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.silidor.com.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte.
Micro-cravate. Micro-cravate.
Micro-cravate.
Micro-cravate.
Micro-cravate.
Micro.
Micro-cravate.
Micro-cravate.
Vous écoutez Micro-Cravate, l'émission de reportage et création sonore qui se balade entre Bruxelles et Montréal. Aujourd'hui, un magnifique jour de mai, la fête des mères au Canada. Le soleil brille, les oiseaux gazouillent, il fait chaud. Vous pénétrez dans un sous-bois, le soleil filtre à travers les feuilles, un nuage passe, une ombre, un craquement, une présence. Aujourd'hui, on vous propose une balade en clair-obscur. Bonjour à tous, chers promeneurs du dimanche. Bienvenue dans ce 8e numéro de Micro-Cravate sur Choc, qui vous sera présenté par Anna Massé et Gauthier Piatek. Toujours
salut
à la
Anna.
Technique.
Salut Gauthier. Salut Anna, bonjour à tous.
Souffle-t-il si fort?
Ce n'est pourtant pas la saison.
C'est peut-être l'esprit du vent.
C'est sûr, il n'en faut pas beaucoup pour déranger les esprits des bois. Mais après notre passage, qui pour remettre les arbres à leur place? Gauthier, est-ce que tu sais qui range la forêt?
Eh bien, même si tu crois profondément en l'existence de l'esprit de la forêt, je dois t'annoncer la vérité, ce sont les gardes forestiers. Un métier fait pour ceux qui aiment prendre le temps. Émilie Pomereau s'est rendue dans la forêt de Soignes, une forêt de 5000 hectares qui date de plusieurs millénaires avant Jésus-Christ. Elle couvre aujourd'hui majestueusement les trois régions de la Belgique. Rencontre avec Dominique Leclerc, un garde forestier qui veille sur la forêt quotidiennement.
Et donc là, on s'approche de là où vous habitez, n'est-ce pas?
Ouais, ça c'est une maison forestière.
Donc vous habitez dans la forêt quasiment?
On habite dans la forêt, oui. Donc ces maisons ont été conçues, celle-ci est très ancienne, en fait elle date même, je crois savoir, d'avant la révolution belge, ou à peu près contemporaine en tout cas.
Donc là, on quitte votre domicile et on va se diriger où exactement?
Donc on va aller sur mon triage. En fait, donc, moi j'occupe une maison qui est située dans la première brigade et je travaille, mon triage se trouve dans la deuxième brigade. Et moi j'ai commencé en 85. Donc ça va bientôt faire 30 ans. J'ai commencé comme ouvrier forestier. Et puis j'ai gravi les échelons. Et j'ai passé les examens de garde forestier en 96. Et puis, maintenant je me... Plus récemment, je suis devenu chef de brigade. Et donc... Voilà. Au bout de 30 ans, il y a moyen de faire beaucoup de chemin, d'apprendre beaucoup de choses et d'avoir très grande expérience.
Vous vous repérez facilement? Ça vous arrive encore de vous perdre dans la forêt de Soignes?
Non. Parce qu'en plus, moi, j'ai travaillé à la fois en première brigade, en deuxième et dans les bois périphériques. Donc, je connais. J'ai connu presque tous les triages, en fait. Voilà.
Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier?
Bon, moi, je crois que sincèrement, c'est d'avoir été scout. Oui. Quand j'étais louveteau, éclaireur, on se donnait rendez-vous chaque dimanche en forêt. J'étais plutôt du côté de Tervuren et tout ça, donc moi c'est vraiment là que j'ai pris goût. Ben voilà, donc on est au mois de janvier. Pour l'instant, on prépare les martelages. Donc les martelages, c'est la désignation des arbres qui seront mis en vente au mois d'octobre. Donc, pour ça, il faudrait peut-être expliquer que bon, la forêt, ben, c'est un milieu vivant, comme on l'a dit, mais pour la sylviculture, le principe, c'est de privilégier les arbres, les beaux arbres. Et donc, pour ça, on doit faire une sélection. Et un peu comme le jardinier éclaircit ses carottes dans son potager. Parce que si on laisse tous les arbres pousser l'un à côté de l'autre, naturellement, sans s'en occuper, eh bien, on arrive à avoir des arbres malingres qui vont être encore plus sensibles au vent. C'est-à-dire qu'on fait une sélection des arbres d'avenir, des arbres objectifs. Ce sont les arbres qu'on destine à rester jusqu'au terme d'exploitation, c'est-à-dire jusqu'à la fin de vie du peuplement. Donc c'est des arbres qui vont vivre jusqu'à 100 ou 200 ou 100 ans, voire plus. Quand on a fait cette désignation-là, quand on a fait cette sélection-là, alors on passe en martelage au mois de février, ici dans le petit bois, et on va délivrer des arbres qui seront autour des arbres objectifs, hein, qui portent concurrence à ces arbres objectifs. Bon, et les arbres qu'on aura désignés au marteau donc sont délivrés et sont mis en vente. C'est une vente pas aux enchères mais au rabais, donc le prix, un prix maximal est fixé et puis on descend au fur et à mesure, et c'est le premier qui prend le lot qui se porte acquéreur moyennant des cautions, etc., des cautions bancaires, et alors on établit un état des lieux avec le marchand et à l'entrée, et à ce moment-là on lui délivre le permis d'exploiter, et il a environ un an pour exploiter le bois qui lui a été cédé, et donc voilà, ça doit se faire sous certaines conditions assez strictes, et c'est ce que je vais vérifier encore maintenant aujourd'hui aussi.
Donc, c'est-à-dire que vous contrôlez comment le bois est transformé par les gens qui l'ont acheté?
Disons, on contrôle l'exploitation en forêt. C'est assez strict, hein. Ils ne font pas ce qu'ils veulent non plus. Hein.
Et généralement, ils font quoi avec ce bois-là?
Ben, ça dépend des dimensions. Ça peut être de petits bois, ça peut être pour du bois feuillu, ça peut être du bois de chauffage. Pour le bois des résineux, là, ça peut être... On commence à faire pas mal de mobilier avec le mélèze, par exemple.
C'est revendu en Belgique ou plutôt d'autres... C'est exporté à l'étranger?
Ben, les petits marchés, les petits bois, les petites dimensions, ça reste en Belgique, souvent, ou en Europe. Par contre, les gros bois, là, vont en Chine, principalement. Hein. Donc, les marchands locaux ont de plus en plus de mal. Et le monopole est aux mains des Chinois, donc au niveau des prix, etc., c'est difficile, de plus en plus difficile pour les marchands belges et européens de tenir le coup. Les arbres qui sont cernés de bleu, ce sont les arbres objectifs. Une fois que de l'espace libre va être créé autour de lui, eh ben il va pouvoir croître d'autant plus et vraiment marquer son caractère dominant par rapport aux autres.
Et alors comment est-ce que vous déterminez les arbres objectifs? Ben, j'imagine il y a plusieurs critères, mais oui, rapidement.
Tout simplement la hauteur, la grosseur, donc la vigueur de l'arbre en fait. Et l'absence de défaut. Côté de hache, porte un seau. Et avec ce seau, on frappe donc le tronc et on applique une marque, le seau royal, qui désigne l'arbre à la délivrance. Par expérience, on peut constater que si on n'intervient pas, eh bien, on va parfois laisser des arbres dominants qui ont de gros défauts et qui vont dominer les arbres comme celui qu'on vient de voir ici. Et voilà, sans notre intervention, il n'aurait pas eu la chance qu'il a. C'est ce qu'on appelle les loups. Les loups, ce sont des arbres très vigoureux, mais parce qu'ils ont beaucoup de défauts. Ils ont beaucoup de branches qui partent dans tous les sens et qui écrasent les autres. Et donc, ce sont ces premiers arbres-là qu'il faut éliminer. Mais si on ne le fait pas, si c'est pas des forestiers pour le faire, eh bien on arrive à des peuplements qui sont malvenus, qui sont pleins de défauts et où il n'y a pas d'avenir. Donc ces arbres vont écraser les autres, mais après ils ne vont pas grandir suffisamment et se développer, ou ça va devenir ce ne sera plus une forêt, alors ce sera un ensemble d'arbres difforme et si la forêt de soigne retient tant l'attention et a retenu tant l'attention jusqu'à présent, c'est parce qu'il y a eu aussi les forestiers qui l'ont mis en valeur, hein. Ça ne s'est pas fait tout seul, bien sûr. Naturellement, il y a des arbres qui poussent remarquablement, et en forêt de soigne c'est le cas bien souvent, mais c'est aussi avec l'aide de l'homme. Et même anciennement, on intervenait encore bien plus. On pratiquait l'élagage à grande hauteur, même pour les arbres en forêt, pas seulement le long des drais parfois. Donc, on en vient maintenant à une sylviculture beaucoup plus proche de la nature qu'avant, mais on garde quand même une certaine maîtrise.
Genre rancunier, mais là Jean-Paul, tu as exagéré. Tu peux me tromper avec qui tu veux, mais pas avec mon petit neveu. Mais dans la forêt, le hibou à l'aide ses petits. Mais dans la forêt, tout est beau, tout est joli. Je n'avais pas la santé pour supporter tes mœurs détraquées. C'est pour mieux t'oublier que je me suis jetée sous le tramway. Mais dans la forêt, le hibou à l'aide ses petits. Mais dans la forêt, tout est beau, tout est joli.
Sortons de la forêt, regagnons le sentier et poursuivons notre promenade avec Jacques Le Bourgeois. Pour ce second volet de Ficelle et Pot de Yaourt, notre guide et ses écrivains ont exploré les recoins d'une étrange maison.
Pot de Yaourt, Ficelle, Pot de Yaourt, Ficelle.
Bienvenue dans ce deuxième épisode. Je l'ai appelé le chemin des écoliers.
Ficelle, Pot de Yaourt.
Il y a deux portails pour pénétrer dans la propriété. Le premier donne sur un sentier fait de gravier. Il mène au garage. Le deuxième donne directement sur la maison. Tu peux voir une pelouse ainsi qu'une façade de briques rouges. Le toit est fait d'ardoise. Tu franchis le portail composé de lattes de bois peintes en blanc. Un chien aboie et vient à ta rencontre. Tu n'es pas encore sur la pelouse. Le sol est fait de briques, de même que le sentier qui fait la jonction entre le portail et la porte d'entrée de la maison. Tu continues vers la porte d'entrée. Ton regard se porte vers le côté droit du sentier. En effet, tu contemples tout en progressant l'endroit où se finit la maison. Une plante grimpante, remontant le long du coin, se déploie de telle sorte que la porte présente juste à côté s'en trouve surplombée. La fenêtre, un peu plus à gauche, donne, tout comme la porte, sur une grande pièce. Un peu plus loin, après un pan de briques rouges, tu peux voir une porte-fenêtre. Un mince rideau, si la porte-fenêtre est ouverte, réagit doucement. Tout en suivant le sentier de briques rouges, ton regard se porte maintenant sur ce vers quoi tu vas, la porte d'entrée. Sur la moitié supérieure, s'y découpe un quadrillage de verre, transparent. Avant d'entrer, tu dois monter une marche. Un pas de plus, et tu pénètres dans la maison. Tes semelles frôlent un paillasson qui fait toute la largeur de l'entrée. Il est contenu dans un renfoncement au sol. Tu t'essuies les pieds. Face à toi, trois chemins. À droite, jusqu'au plafond, un escalier en bois massif t'amène sous les combles par le moyen d'une porte en bois. Face à toi, si tu regardes au sol, tu vois se déployer un carrelage de couleur rouge sombre. Il t'amène vers une ouverture donnant quelques centimètres plus loin, à une porte. À gauche, un escalier en bois massif de quelques marches t'amène vers une plateforme qui surplombe l'entrée. De là où tu es, tu peux voir une poutre s'y dresser en son centre. Il y a des fenêtres présentant des barreaux, une cheminée en brique est visible. Elle se trouve dans le coin droit de la plateforme. La distance qui sépare le sol du plafond est à peu près la même que la hauteur de la maison. Les murs ont été peints de couleur blanche. Tu empruntes le chemin qui te conduit vers l'ouverture. Pour ce faire, tu dépasses l'escalier. En dessous de celui-ci, il y a une commode sur laquelle est posé un gramophone. Le métal qui le constitue brille. Il semble avoir été bien entretenu. Rien n'indique qu'il fonctionne. À côté du gramophone, une boîte de métal en aluminium. Sa forme est celle d'une maison. Sa surface présente un bas-relief dont l'iconographie a des allures chrétiennes. Tu dépasses la commode. Du même coup, tu dépasses une grande cage à oiseaux blanches. Elle ressemble à une fusée. Puis tu dépasses un porte-manteau. Quelques chapeaux y sont posés. L'un des manteaux semble présenter une doublure d'origine anglaise. L'ouverture est devant toi. Tu t'engages en faisant attention à la marche. Tu ouvres la porte située quelques centimètres plus loin. Ce sont les toilettes. La pièce est relativement étroite, même pour une personne d'un petit gabarit. Les murs sont recouverts d'un papier peint au motif années 30. Il reprend des affiches publicitaires de l'époque, avec notamment un spectacle de music-hall de la Goulue. Au-dessus de la cuvette se trouve une petite fenêtre, une meurtrière d'à peine 45 cm sur 45. Quand tu t'assois sur la cuvette, tu remarques au-dessus de la porte une petite étagère sur laquelle est stockée la réserve de papier hygiénique. Le papier en question n'y est pas présent sous forme de rouleau, mais en petits carrés de feuilles empilées et à installer dans un distributeur. En sortant de cet espace contigu, tu te retrouves devant un couloir, assez sombre. Les murs sont blancs, recouverts d'une sorte de plâtre sculpté. Le carrelage au sol est d'un brun assez beau, ancien et chaud. Tu peux désormais aller à droite ou à gauche. Humant l'air venant de la droite, tu t'y engouffres. Avant d'arriver à la source de l'allée Champfumet, tu passes devant deux portes. Celle de gauche, en bois verni aux serrures et mécanismes en métal sombre, est un placard. Rempli de fourbis, il contient surtout des manteaux, deux vestes en cuir, quelques chapeaux et des chaussures. En bas est rangé le matériel du parfait cireur de souliers. Cirage de différentes couleurs, dont l'odeur assez forte parfume le placard, graisse de phoque, chiffon, aérosol d'imperméabilisant et l'outil indispensable, à savoir une vieille brosse à dents au poil assoupli et dégarni par le temps. Sur une petite étagère en hauteur, tu trouves une grande boîte métallique. Y est rangé un kit de premier secours avec tout ce qu'il faut de bandages, de pansements et d'alcool à 90. La porte de droite a quant à elle un vieux parfum de naphtaline. Mais tu continues droit devant toi et ouvres la porte vitrée qui donne sur la cuisine. Tu le vois dans la lumière chaude du soleil. C'est la lumière au bout du tunnel. Il fume une cigarette à la fenêtre. Il t'a entendu rentrer, mais il n'a pas tout de suite tourné la tête. Mais le temps d'observer cette scène, de t'y plonger, il te regarde, droit dans les yeux. Le vent traverse le saule pleureur à l'extérieur, devant la fenêtre, devant lui. C'est étrange, c'est la saison des fées. Il vient de cirer ses chaussures. Mais où va-t-il partir ce soir? Tu finis par t'asseoir à la table de la cuisine. Tu espères tant qu'il viendra vers toi. Dans la lourdeur de chaque seconde, chaque geste fait naître l'espoir. Mais chaque geste suivant le fait immédiatement s'évanouir. Le téléphone sonne. Il jette sa cigarette. Il quitte la pièce. Le parquet craque sous ses pas. Rythmé, élégant. Mais pourquoi restes-tu planté sur cette chaise? Tu croises les jambes une fois, tu les décroises et attrapes la boîte d'allumettes qui se trouve sur la table. Entends-tu sa conversation au téléphone? Qui est-ce? Il parle d'une voix calme, grave. Tu devrais te lever. Vraiment. Mais tu restes figé sur cette chaise, devant la fenêtre de la cuisine, dans la lumière du sol pleureur. Il a raccroché. Tu fixes la table comme si la solution allait s'y inscrire d'un moment à l'autre. Il est revenu dans la pièce. Il te regarde. Tu le sens. Mais tu as honte. Tu ne peux pas relever la tête. Tu qui ne peut pas assumer la lourdeur du message, son jugement qui va sortir de ses beaux yeux bleus et non de ses lèvres. Tu n'aurais jamais dû, encore une fois. Mais c'est plus fort que toi. Il allait partir quand il a reçu cet appel, tu en es sûr maintenant. Il reste planté là, devant la fenêtre, attendant que tu dises quelque chose. Il aura passé son temps à attendre que des mots sortent de ta bouche, des mots miracles qui auraient tout réglé, tout pardonné. Tu reposes le paquet d'allumettes et regardes autour de toi, toujours tête baissée. Il y a son sac de voyage contre le mur, celui que tu lui avais offert avant que vous ne partiez en week-end la première fois ensemble. Il va partir, comme d'autres avant lui, et tu vas te retrouver seul, parce que c'est tout ce que tu mérites. Tu as disparu 24 heures sans donner de nouvelles. Cet appel qu'il a reçu, c'était probablement quelqu'un qui le rappelait pour lui dire que non, on ne t'avait aperçu nulle part depuis hier matin. Toi, tu sais où tu étais, tu sais ce que tu faisais. Et pas besoin de lui dire, il le sait aussi. Tu relèves la tête doucement, effrayé. Tu ne t'étais pas aperçu que des larmes coulaient sur tes joues. Il t'observe. Sa chemise est impeccable. Son pantalon tombe parfaitement. Ses cheveux sont ramenés en arrière avec soin. Son regard est éteint. Impossible de dire s'il est triste ou en colère. Il ne bouge absolument pas, comme figé dans le contre-jour du soleil mourant. Toi, petite chose assise, le dos courbé, tu ne t'es jamais senti aussi sale, minable et fatigué. Tu attends maintenant avec impatience qu'il prenne son sac et passe cette porte, tant cet instant est insupportable. Il fait un pas vers toi, pose son téléphone sur la table et s'accroupit auprès de toi. Aussi brusquement qu'une gifle, il murmure à ton oreille « Je te pardonne ». Tu te relèves brusquement, le regard encore rempli de larmes. Le temps d'y penser, un instant, une fraction de seconde se passe avant que tu écrases ton poing dans son visage. Il recule de quelques pas et ne comprend pas ton geste. Tu lis dans ses yeux bleus et froids l'incompréhension, la stupeur et la colère. Ces trois sentiments mélangés lui donnent un visage contrit sur lequel commence à apparaître une légère ecchymose. L'air semble figé et la gorge serrée des sentiments contradictoires se bousculent dans ta tête. Est-ce nécessaire de s'expliquer? Est-ce que 24 heures d'absence se justifient? Tu étais ailleurs, loin et fatigué. Il fronce les sourcils. Tu te dis que tu n'as que faire de son pardon. Un pardon lâche, un pardon stupide, un pardon rempli de stupidité. À tes yeux, il représente en fin de compte tout ce que tu as toujours détesté. Son costume tiré à quatre épingles, son air supérieur, tu as envie de vomir. Il commence à se rapprocher de toi, et tu serres les poings. Tu serres les poings comme si tu te préparais à le défigurer. Son sourire. Tu te rappelles, quand vous aviez acheté ensemble ce sac de voyage. Le vendeur avait vanté les mérites de ce sac en toile multifonction. Parfait pour le camping, avait expliqué le vendeur en polo bleu. Il avance d'un pas. Machinalement, tu regardes le paquet d'allumettes. Un feu de joie. Voilà ce qui manquait cruellement à tes souvenirs. Un feu de joie, gigantesque, monstrueux, qui pourrait brûler l'intégralité des forêts de ce monde. Il avance d'un pas. Ses yeux bleus te fixent maintenant. Une mèche tombe devant tes yeux que tu replaces nerveusement derrière ton oreille. Un pas encore. Tu te mets à reculer maintenant. Tu te rappelles ces soirées passées à ne rien faire, devant la télévision, les images qui se succédaient, sans intérêt, plottis contre lui, à écouter le silence du salon, le jeu des questions-réponses qui vous amusait tant, la lumière bleue de l'écran qui se projetait dans toute la pièce. Il était trop tard maintenant. Tu pousses un léger soupir et repenses à hier.
Podiaout, ficelle, podiaout, ficelle, podiaout.
Voilà, c'est fini. Je tiens à remercier Paul, Émilie, Éléonore, Gauthier pour leur participation à l'écriture de ce texte. Sans oublier le musicien de cet épisode qui, cette fois-ci, n'était autre que James Van Der Beek. À la prochaine!
C'était Micro-Cravate. Comme toujours, on remercie les journalistes et artistes qui ont participé à l'émission. Rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, retrouvez les podcasts sur choc.ca et plus de reportages sur le site microcravate.com. À 17h, vous retrouverez Mutation. Bonne fin de semaine sur Choc.
Et bon dimanche!
I need 2 words.
Okay.
Micro cravate.
Micro cravate. Did you see me? I killed a man. They all stayed down, but he chose to stand. And girl, but did it hit you deep to watch his mind see across the pavement beat down the slabs that meet each and every single one of your feet? Did you ever know the limitations of a clone? They kept me on my throne. This ill space of time, caught a little trace of slime. It's not here to appear for the tears, the mere hatred that flows through the years. The silent calm was violent charm, held in the depths of a tyrant's palm. Expect the eye to lay by his side and bear with the sight of just another man's mind. I must mistake the high, the cool these breaks, these stakes will lie. I was not born to be torn, I was born to be exposed in the storm and held warm. In the hot heat of my bar, sat by the feet of your lover, beat down to see one another. I dug through these graves to uncover a pile of bones mixed with violent tones, forced through the earth with these silent drones. I'll see through time evading the mimes, I'll breathe in time on other guy's side.
You buried that piece of me.